Bien. Des questions. Il y a des micros. Maud. Ah, pardon. Là-bas. Là-bas. Là-bas.
Malheureuse.
Là-bas.
Vous avez évoqué tout à l'heure la grande diversité des origines nationales, des agents qui travaillent dans le service. Quelles sont les règles linguistiques qui ont été retenues pour la communication interne et pour la communication externe du service ?
Pour la communication interne, c'est celle qui prévaut, en tout cas dans toutes les administrations qui s'occupent de politique étrangère, c'est-à-dire que c'est le français, réjouissez-vous, et l'anglais. Mais soyons honnêtes, l'anglais fait à peu près 90% des textes et des notes, et 70 à 75% des conversations, des réunions, de l'expression orale. Et ça continuera comme ça. Je ne sens pas du tout, pour être tout à fait honnête avec vous, de retournement de la situation par rapport à cette situation actuelle. C'est la même chose au sein de la Commission et c'est à peu près la même chose au sein du Conseil. La place forte du français, c'est à Luxembourg dans les institutions judiciaires où la langue française, étant justement considérée comme une langue plus précise que l'anglais, a été adoptée depuis l'origine par les juges et est devenue la langue de base. Pour les Français qui travaillent à Bruxelles, il faut quand même se doter d'une assez bonne capacité à parler l'anglais. C'est pour ça qu'il est très agréable d'être parmi vous ce soir et de retrouver ma langue naturelle. J'ai l'impression que c'est un repos.
Oui, vous avez parlé de la nécessité de définir en gros une stratégie diplomatique européenne. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu comment celle-ci est adoptée et validée ? Quel est le processus qui fait que telle ligne directrice va devenir la norme ? Est-ce qu'il est décidé par qui ou quel est le sort de processus de codécision qui existe dans le domaine diplomatique ?
Oui, il existe comme pour les autres, c'est-à-dire qu'il se fait beaucoup à base de propositions soumises aux États membres et d'aller-retour entre les États membres et le service pour définir ce qui est ensuite une position commune. Mais si vous lisez bien le traité de Lisbonne, il a quand même donné à la haute représentante et vice-présidente de la Commission une capacité d'initiative et je dirais une certaine marge de manœuvre pour lui permettre d'agir éventuellement en son nom propre et pour ici ou là lancer des initiatives. C'est une des innovations. Ça suscite parfois un peu d'irritation parmi les États membres, mais je pense que c'est une bonne chose et qu'il faut savoir l'utiliser avec mesure, mais de temps en temps l'utiliser. Je me sens d'autant plus le droit de le dire que j'ai même entendu quelques ministres le dire à Madame Cathy Ashton en lui disant « N'hésitez pas à prendre des initiatives ». On vous critiquera pour cela, mais au fond, sachez qu'on est d'accord avec vous et qu'il faut parfois avoir le courage de le faire. Et donc, il y a là, encore une fois, une capacité peut-être de plus grande flexibilité qui est très utile. Parce que pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, dans le monde d'aujourd'hui, le système, le processus de décision au sein de l'Union européenne est totalement inadapté. Je vous donne un exemple. Au début du printemps arabe, la Commission et la haute représentante ont décidé et ont mis en place une communication sur notre partenariat avec les pays du Sud en date du 8 mars, dans lequel nous avons établi une sorte de catalogue, de plan d'action avec toutes les propositions que nous pouvions faire dans tous les domaines. C'était une sorte de balayage extrêmement vaste depuis le commerce jusqu'à l'éducation, en passant par l'immigration, les transports, les infrastructures, l'aide aux investissements, etc. Donc un formidable balayage pour offrir un plan d'action à tous nos partenaires tunisiens, égyptiens, etc. Tous les États membres ont applaudi, D'abord, c'est très intéressant. Tous les États membres ont applaudi en disant c'est parfait, c'est exactement ça qu'on voulait. Tous les éventuels bénéficiaires nous ont dit une fois de plus, vous faites toujours la même chose. Vous nous présentez des choses que vous avez rédigées tout seul dans votre coin, sans aucun dialogue avec nous. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à adapter ça et à reprendre tout ça et à le mettre en forme pour faire du coût humain pour chacun d'entre eux. Mais ce qui est très intéressant, cette communication date de mars. Si vous prenez par exemple le domaine commercial où il s'agit d'accorder davantage de concessions aux pays méditerranéens, nous sommes dans la phase où nous n'avons même pas encore discuté entre les États membres pour définir les propositions qu'on va faire à ces pays. C'est-à-dire pratiquement huit mois après, nous sommes toujours en train de discuter entre nous des propositions de concessions commerciales que nous allons faire avec ces pays et qui probablement seront faites au début de l'année prochaine pour commencer des négociations. Et ces négociations, si elles sont menées jusqu'au bout, il faudra ensuite les faire ratifier par le Parlement européen. Le dernier accord en matière d'agriculture et de pêche avec le Maroc, qui a été signé, je crois, à peu près il y a trois ans, n'est toujours pas ratifié parce que le Parlement européen n'a toujours pas donné son accord. Donc avec un système de ce type, qui est encore une fois le système classique, qui est celui qui a toujours existé au sein de l'Union, nous perdons souvent des avantages considérables par rapport à nos concurrents dans d'autres pays. Et je pense que l'un des vrais défis qui va se poser à l'Union européenne à mesure qu'on avance, c'est d'essayer d'assouplir un peu tout ça, tout en respectant les intérêts des États membres, bien évidemment, qui devront toujours être partis à l'ensemble du processus de décision. Mais il me semble qu'il faudra qu'on essaye d'inventer quelque chose, parce que dans l'Europe à 27, ce processus est devenu d'une lourdeur qui est très difficile à gérer.
Oui, j'aurais voulu savoir comment intervenait ton service dans un système technique à l'origine qui est en train de devenir diplomatique, qui est celui des marchés carbone. Au départ, ça a été une réglementation européenne sous l'égide de la DG Climat, avec la DG Transport. Petit à petit, on s'est mis dans une situation où le monde entier s'opposait à notre position. Et on vient d'avoir des informations extrêmement inquiétantes côté américain, où finalement, dans le combat interne aux USA, ils sont en train de retrouver leur unité contre nous sur les marchés carbone. Donc ça devient de la vraie diplomatie. Que va-t-il se passer sur ce sujet dans les institutions européennes ?
C'est un très bel exemple et merci de l'avoir proposé parce que c'est exactement un exemple parfait où se pose la question de la relation de travail entre la direction générale au sein de la commission en charge de cette affaire, la direction du changement climatique, et le service d'action extérieure qui lui en effet est chargé de l'action diplomatique. Pour dire les choses simplement, c'est à peu près la même chose qu'en France entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Environnement. Comment travailler ensemble et s'aider les uns les autres. Et dans l'exemple que tu présentais, on est vraiment au cœur de l'actualité. Et malheureusement, il n'y a pas que les États-Unis. Les États-Unis ont dit qu'ils refuseraient absolument les mesures que nous voulons établir vis-à-vis de toutes les compagnies aériennes et de la pollution des avions à propos des émissions de carbone. Et les Américains ont dit que c'était inacceptable, qu'on faisait en quelque sorte ce qu'eux ont fait souvent, c'est-à-dire de l'extraterritorialité, et qu'il n'en était pas question. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est que pratiquement tout le monde entier s'est ligué avec les Américains contre nous. Donc c'est à peu près l'Europe seule contre le monde entier. Mais justement, dans le travail que l'on mène actuellement vis-à-vis du Congrès pour essayer de trouver une porte de sortie, l'EAS s'est associé avec cette direction générale chargée de cette question-là et ensemble, on met en place des plaidoyers, des argumentaires, notre ambassadeur sur place, le chef de la délégation de l'Union européenne, prend des contacts, essaye de faire passer nos idées, avec plus ou moins de succès pour le moment, malheureusement. Mais le sujet sera probablement au sommet entre l'Union européenne et les Américains qui aura lieu lundi prochain à Washington. Donc c'est une manière de tous travailler ensemble en mettant ensemble nos expériences et nos expertises. Donc encore une fois, c'est très proche de ce que l'on fait au niveau national, mais c'était quelque chose qu'on ne faisait pas ou très rarement avant au niveau européen. Donc cette façon de mettre ensemble nos ressources humaines, nos ressources financières, nos ressources en matière d'expertise est quelque chose d'assez nouveau dont on espère qu'elle nous rendra un peu plus efficace, un peu plus combatif et peut-être en définitive un peu plus performant. Voilà.
Oui, bonjour monsieur. Vous parliez de créer une culture administrative nouvelle et je voulais vous demander si finalement le rôle du SEE n'était pas avant de créer, avant que les États acceptent de déléguer de leurs compétences en matière de politique étrangère, finalement de voir que les États européens dans le SEE, que le SEE était capable de gommer les réflexes nationaux pour créer des réflexes européens. Mmh.
Il y a de cela, vous avez raison. Ce qu'il y a, moi, je trouve d'assez intéressant dans le service d'action extérieure, et là, je vais apparaître peut-être iconoclaste pour un esprit communautaire parfait, parce que l'idée, c'est dès lors que vous êtes un fonctionnaire européen, vous perdez tout contact avec votre état d'origine et vous devenez un être différent. Et on voit bien que c'est un peu irréaliste. Mais en réalité, je trouve que le service d'action extérieure, de ce point de vue-là, marque une évolution par rapport à cet idéal qu'on s'était fixé, notamment à la Commission européenne. C'est que précisément, comme il intègre en son sein des diplomates venus des différents États membres, qui sont, et ça j'aurais peut-être dû vous le dire plus tôt, mais qui sont là pour une période transitoire. Ils sont détachés au maximum pour 8 ans et doivent ensuite retourner dans leur pays. Donc leur demander de renoncer complètement à toute relation avec leur pays d'origine est un peu ridicule. La contrepartie, et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que précisément parce que nous avons l'ensemble des nationalités représentées au sein de notre service, on a comme ça toutes les sensibilités des États membres et si on sait bien jouer de ça, à la fois pour essayer de définir une proposition dont on peut espérer qu'elle recueillera l'accord de tous, et d'autre part pour demander à ces diplomates ou autres de nous dire qu'est-ce qu'on pense de cette proposition dans leur pays d'origine. On crée en quelque sorte une culture de réseau qui est absolument formidable. C'est-à-dire qu'on a une capacité, là où un ministère des Affaires étrangères d'un État membre doit aller interroger ses ambassades, ce que nous faisons aussi d'ailleurs avec nos délégations, nous, sur place, à l'intérieur de notre administration, on peut déjà avoir très rapidement une première estimation. Parce qu'on peut dire à un tel, qu'est-ce qu'en pense ta capitale? Il répond, laissez-moi 10 minutes, il prend son téléphone, il appelle les 4 ou 5 personnes, il connaît mieux que quiconque qu'il faut approcher, et il revient avec des informations qui sont fantastiques. Alors là, je vous dépeins, inutile de vous dire un monde idéal, parce qu'on n'en est pas encore là, et parce que chacun a peu tendance à travailler dans sa petite boîte. Mais la vérité, c'est qu'on a un formidable vivier, si on le souhaite, d'informations, d'expériences, qui fait que cette construction qui au départ paraissait un peu théorique et artificielle peut représenter un vrai atout et un vrai avantage, me semble-t-il. À nous de savoir l'exploiter intelligemment. Mais c'est formidable. Moi, tel que j'ai pu le vivre avant au Quai d'Orsay et tel que je le vis maintenant, je peux vous dire que c'est formidable d'avoir autour d'une table un Letton, un Hongrois, un Espagnol et un Italien, et de leur dire, tiens, cette idée-là, qu'est-ce que t'en penses? Comment on réagirait chez toi? Et vous avez en réaction immédiate quelqu'un qui vous dit, ça, mon vieux, ça passera pas. C'est pas la peine d'essayer, chez moi, on n'en voudra pas. Ça vous donne un formidable avantage et une compréhension de tout ce qu'est la complexité de l'Union qui est remarquable. C'est d'ailleurs pour ceux d'entre nous qui avons pu travailler dans le passé à Bruxelles, par exemple, à la représentation permanente, c'est ça qui a toujours fait la force de l'administration, des administrations et de l'administration en place à Bruxelles. C'est le fait de devoir travailler tous les jours dans des groupes de travail tous ensemble. Ça crée un sentiment d'abord d'appartenance à l'Europe, mais deuxièmement une capacité de comprendre les autres qui est formidable et qui est un vrai atout et qu'il faut saisir. J'ouvre une parenthèse, je pense pour ma part que la réforme dont on ne parle pas du tout, mais qui est la plus intéressante pour essayer peut-être de faire avancer l'euro et la zone euro face à la crise, c'est que l'air de rien, dans l'ensemble des réformes institutionnelles qu'on a fait, on a enfin créé un petit groupe de travail de représentants du Trésor installés à Bruxelles, représentant les 17 États membres de l'euro, qui désormais vont travailler ensemble tous les jours pour essayer de faire avancer les choses. Ce petit truc-là, il faudra voir ce que ça donne, mais si ça marche, je vous assure que ça peut faire une différence avec le temps. Parce que c'est des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble et qui peuvent réagir beaucoup plus rapidement comme ça.
Pardon. Bonsoir, monsieur le secrétaire général exécutif, cher Pierre. Dans le prolongement de la question précédente, est-ce que vous sentez depuis Bruxelles une rétroaction du SEAE sur, je note que vous dites d'ailleurs EAS, comme la plupart des francophones de Bruxelles, l'acronyme anglais l'a emporté. Est-ce qu'on sent une rétroaction
C'est plus facile, c'est plus musical, Laurent. Je m'en excuse, en fait.
Est-ce qu'on sent une rétroaction du SEAE sur les positions prises par les États membres sur les dossiers brûlants d'actualité récente? Alors évidemment, sur la Libye, on a vu ce qu'il en était, mais est-ce que le SEAE a eu un impact au-delà de la complémentarité sur un rapprochement des positions des diplomaties nationales?
C'est difficile de te répondre parce que ça serait peut-être très vaniteux de ma part de penser qu'on a eu un grand rôle, mais je te donne un exemple. La Libye. Dès que l'opération militaire a été lancée, on a vu très, très clairement que l'Union africaine prenait ses distances. On sait qu'elle avait une attitude vis-à-vis de la crise libyenne très différente des autres. La réaction immédiate d'un certain nombre d'États membres, notamment de ceux qui étaient les plus actifs, a été en quelque sorte de critiquer vertement l'Union africaine et d'avoir très peu de contact avec eux. Ce que l'on a fait, nous, au niveau de l'Union européenne, c'est qu'on s'est dit il faut garder un lien, il faut conserver un pont. Et on a développé un petit groupe qui s'appelait le groupe du Caire, où il y avait les Nations Unies, la Ligue arabe, l'Union africaine et l'Union européenne. Je ne prétends pas que ça a été une percée conceptuelle majeure, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'on a gardé le contact avec l'Union africaine, qu'on a travaillé avec eux, qu'on les a gardés à bord. Et j'en veux pour preuve, pour répondre à ta question, qu'on a vu peu à peu certains grands États, notamment un qui était très proche et qui m'est très proche, essayer de renouer peu à peu le dialogue avec l'Union africaine. Et je pense que c'est aussi parce qu'on faisait passer des messages et qu'on disait « mais ils ne sont pas totalement fermés, il y a des possibilités, il y a de la flexibilité, il faut garder le contact ». Voilà. Je pense que ce qu'on va essayer de faire actuellement sur la crise syrienne avec la Ligue arabe, et il y aura des évolutions et des développements dans les prochains jours, peut aussi être une manière d'aider un peu tout le monde à peut-être mieux se positionner.
Les entreprises françaises sont souvent formalisées de ce que, à l'occasion du règlement de conflit auquel les finances françaises participaient, elles ne parviennent pas à tirer leur épingle du jeu dans les opérations de reconstruction. Les bénéficiaires souvent sont les États-Unis, sont les Britanniques, les Italiens ou les Turcs, qui disposeraient, dit-on, d'agences préorganisées, pluridisciplinaires, à même très réactives, à même de répondre immédiatement. Bon, on ne parle pas de la France aujourd'hui, on parle de l'Europe. Est-ce que votre service a pour ambition ou pour vocation de présenter une réponse préorganisée au service des entreprises européennes ?
On peut le faire dans les secteurs où nous intervenons en première ligne, je dirais. Encore faut-il que les États membres le souhaitent. Je vous donne un exemple, la Tunisie, qui est sans doute de tous les pays de la zone, ceux qui sont en train, je dirais, malgré les difficultés, mais d'essayer d'établir un régime de transition aussi stable que possible. Nous leur avons donc proposé de travailler avec eux pour essayer de les aider dans la relance de leur économie. Nous avons mis en place une formule que l'on a appelée, je m'en excuse, un barbarisme anglo-saxon, une task force. En réalité, ça consiste non pas à faire une conférence de bailleurs ou de donateurs, mais à essayer de faire une conférence. On l'a déjà tenue une première à Tunis, où on fait venir les pays membres, les institutions financières européennes, c'est-à-dire la BEI et la Banque européenne de reconstruction et de développement, la BERD, les institutions financières internationales, Banque mondiale, Banque régionale, etc., les représentants des compagnies privées, des entreprises privées qui le souhaitent, et quelques autres partenaires de s'ils le souhaitent, comme les Australiens, les Chinois ou d'autres. Et nous mettons tout le monde ensemble là pour essayer de voir comment on peut travailler avec en face, bien évidemment, ça se passe dans le pays membre, ça s'est passé à Tunis, les autorités tunisiennes, on a monté l'affaire avec eux. À notre grande surprise, ça a été un immense succès, peut-être parce que c'est le pays, encore une fois, qui attire le plus les investisseurs privés. Mais on a eu énormément de sociétés françaises qui sont venues et qui ont même déjà fait des promesses et pris des engagements. Et donc, il y a là quelque chose qui peut se nouer et sous la bannière de l'Union européenne. Nous avons proposé aux Jordaniens de faire la même chose et nous espérons le faire en janvier, fin janvier, début février. On en parle actuellement avec les Égyptiens, avec les Marocains et avec d'autres. Les Libyens, sans doute, le moment venu. Et ça peut être une manière de le faire. Mais pour ça, il faut que les États membres se disent, tiens, c'est peut-être plus intéressant de travailler tous ensemble avec l'Union plutôt que d'y aller en ordre dispersé. Mais beaucoup d'entre eux préfèrent et continuent à préférer à y aller en ordre dispersé, ce que je peux comprendre. D'abord parce que très souvent, comme je le disais il y a un moment, l'Union européenne a souvent la réputation d'être un peu lourde, et c'est exact, et d'avoir des procédures un peu lentes. C'est pour ça qu'on a inventé cette idée de task force, pour essayer de passer par-dessus tout ce lourd circuit de décisions dont je parlais tout à l'heure. Et je pense qu'il va falloir de plus en plus inventer des choses de ce type. Mais voilà un exemple où l'on essaye d'être innovateur, en quelque sorte.
Monsieur le secrétaire général exécutif, bonsoir. Comme vous le savez, dans le dispositif diplomatique français, l'action culturelle et de coopération a constitué un outil très important, majeur, presque un cas d'école, pour constituer des réseaux. Vous avez évoqué l'extension progressive à des conseillers militaires. Est-ce qu'on peut envisager, compte tenu quand même de la complexité constitutive de l'Union, un volet qui se développerait dans ce domaine, sachant quand même, comme vous l'avez évoqué, qu'il est assez intéressant pour constituer des réseaux en profondeur avec nos différents partenaires.
Ce qui est très intéressant et qui me fait penser que probablement ce service diplomatique européen, parce que si on veut sortir des acronymes, c'est ça qu'on essaye de mettre en place, c'est un service diplomatique européen. Ce service diplomatique européen arrive probablement à son heure parce que la plupart des États membres, en tout cas ce que j'appellerais les petits et moyens, comme on parle des petites et moyennes entreprises, les petits et moyens traversent des situations financières et budgétaires extrêmement difficiles. Et ils sont en train de fermer des ambassades, en train de fermer souvent des centres culturels, de supprimer, de couper assez lourdement. Et bien évidemment, ils viennent nous voir en nous disant, est-ce qu'on peut trouver une manière, si on ferme, de vous transférer à la fois la responsabilité, pas mal de charges, mais peut-être aussi quelques ressources. Et donc on voit bien qu'à mesure qu'on avance, il y aura probablement dans le domaine culturel, dans le respect bien évidemment de la souveraineté de chacun des États membres, mais qu'il y aura peut-être là aussi à inventer des outils assez intelligents de centres culturels européens où on permettra, on accueillera les différents États membres pour qu'ils puissent exposer leur culture et qu'on puisse mutualiser nos moyens de façon à faire comme ça des économies. Alors, il faudra y aller lentement, mais je vois bien, moi, comme on l'a indiqué trop gentiment tout à l'heure, avant d'occuper ces fonctions, les fonctions actuelles, j'étais à Washington, et déjà à Washington, lorsque j'y étais, les ambassades des États membres commençaient à réfléchir à mettre en commun leurs moyens pour la promotion culturelle de chacun de ces pays. Et maintenant que je suis de l'autre côté, on m'en parle de plus en plus parce que ça paraît une évidence. Et donc je pense qu'on verra se développer ça. Ce qu'il faut dans un domaine comme celui-là, pour ne pas donner l'impression qu'on empiète sur la souveraineté des États membres, c'est qu'il faut que les idées viennent des États membres et les laisser venir. On peut les aider à les faire germer éventuellement dans un dialogue maïotique, je dirais, dans une maïotique, un dialogue platonicien, mais ça me paraît être quelque chose que l'on peut espérer développer au fil des ans. En d'autres termes, je pense que beaucoup de résistances qu'on a pu observer ces dernières années, beaucoup de réserves qui étaient là, des espèces d'a priori ou de préjugés qui étaient défavorables, je sens que tout ça est en train de lentement disparaître et de s'écrouler, à la fois par nécessité, compte tenu des moyens financiers limités des uns et des autres, et puis parce que, encore une fois, le monde est en train de changer, et quand on se trouve confronté à la formidable concurrence chinoise ou indienne, il n'est plus tellement temps de continuer à agir séparément. C'est au contraire maintenant une question de survie que d'essayer de faire cette Europe de l'action extérieure.
Monsieur le secrétaire général, vous avez évoqué la gestion de crise. Je voudrais parler de l'initiative dite de Weimar, de la France, de l'Allemagne et de la Pologne, rejointe par l'Espagne et l'Italie, pour doter l'état-major militaire de capacités de planification et de gestion opérationnelle. Est-ce que vous pouvez nous dire si, en dépit de l'opposition britannique, ceci a des chances d'évoluer ?
L'opposition britannique reste très forte, incontestablement, sur ce terrain. Ce que l'on essaye de faire, c'est d'avancer à petits pas et de convaincre nos amis britanniques, peut-être pas de mettre en place immédiatement un état-major, mais peut-être de commencer à essayer d'avoir l'embryon d'un centre opérationnel. Parce que la situation, pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas familiers avec ce secteur, la situation actuelle finit par être un peu ridicule. On a lancé depuis Saint-Malo et la mise en place avec le traité le traité qui a suivi Nice et depuis lors Lisbonne. On a lancé quand même près d'une vingtaine, un peu plus de 20 opérations militaires ou missions civiles. À chaque fois, pour le militaire, pour les opérations militaires, il faut mettre en place un nouvel état-major qui acquiert une vraie expérience dans la conduite des opérations et la planification des opérations. Et quand c'est terminé, il ferme. Et tout est reparti, c'est-à-dire une perte d'efficacité. Et je veux dire le contraire d'une bonne gestion. La mémoire se perd, il faut à chaque fois la reconstituer. Donc ce discours-là, quand on le tient aux Britanniques, qui sont même des gens assez pragmatiques et partisans, comme ils disent, du cost efficiency, c'est très difficile de dire non. Et c'est à travers cet argument-là que l'on essaye progressivement de mettre en place quelque chose qui, peu à peu, pourrait être un embryon pour telle ou telle opération, comme ils disent, de basse intensité, pour éventuellement faire de la conduite d'opération, puis peut-être un peu de planification. Et je pense que d'ici 10 ans, on aura une situation tout à fait différente, mais je pense qu'il faut avancer comme ça. De but en blanc, demander aux Britanniques d'accepter un état-major européen, c'est voué à l'échec, incontestablement. J'ajoute une chose. Regardons ce qui va se passer dans les années à venir à l'OTAN, moins pour des raisons liées à la récente opération libyenne qui a été assez spectaculaire, en effet en laissant les Français et les Anglais en première ligne et les Américains se mettant un peu derrière, mais parce que vous allez assister dans les semaines et les mois à venir, dans le formidable débat américain sur la diminution des dépenses publiques et la diminution du déficit, à une attaque en règle contre les dépenses militaires américaines en Europe. c'est même, si vous lisez la presse et si vous écoutez la télévision américaine, le seul sujet sur lequel républicains et démocrates sont d'accord. Donc je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Il va falloir qu'on commence à réfléchir ensemble, à assumer un peu plus nos responsabilités dans ce domaine-là. Donc on est dans un paysage politico-militaire qui est en train d'évoluer à grande vitesse et qui fait qu'on aura sans doute des nouveaux développements qui seront certainement très intéressants à suivre.
Bonsoir. J'avais une question concernant la République démocratique du Congo. Des élections auront lieu en principe dans quelques jours, élections législatives et présidentielles. On peut s'attendre à une réélection du président Kabila dans des conditions qui seront contestées par l'opposition. Quelle est la capacité d'influence de l'Union européenne sur le cours des événements à venir et dans un pays aussi vaste et aussi complexe que la RDC? Et quand on sait que c'est un pays qui intéresse beaucoup les pays émergents et notamment la Chine.
C'est une situation que l'on suit avec beaucoup d'attention. Quand vous dites que les opposants sont très critiques, je crois qu'il y en a même un installé en Afrique du Sud qui s'est déjà déclaré vainqueur avant même que l'élection n'ait eu lieu. Donc on voit à peu près le contexte dans lequel on se trouve. Et là aussi, un immense avantage d'être à Bruxelles et de parler avec les uns et les autres. Nos amis belges qui sont orfèvres en la matière, depuis déjà plusieurs mois, nous ont mis en garde et en alerte en nous disant « si j'étais vous, je commencerais à regarder de très près ». Donc on a suivi assez attentivement ce qui se passe là. On a beaucoup de contacts. Je ne veux pas dire par là qu'on évitera une crise si elle doit surgir, mais disons qu'on est actuellement très attentif, qu'on a essayé de passer les bons messages aux uns et aux autres, qu'on a encore une petite mission qui est là-bas, mais qui est composée de quelques individualités, ce n'est pas grand-chose, qu'on va envoyer une mission électorale, en fait, qui est déjà en train d'ailleurs d'y travailler, pour essayer de surveiller la bonne tenue et le bon déroulement du scrutin. Et je dirais qu'on est dans une situation un peu de pré-alerte. Mais bien évidemment, notre rôle n'est pas de s'imposer de force dans ce pays. Il faut en respecter la souveraineté. Donc c'est un jeu assez subtil sur lequel on travaille à l'heure actuelle, en espérant qu'on saura éviter le pire.
Bonsoir. Est-ce que la montée en régime du service d'action extérieure peut avoir une influence sur la façon dont les États européens participent aux organisations internationales multilatérales ? Bien sûr, l'ONU, le Conseil de sécurité, mais aussi les organismes spécialisés comme l'OACI, l'OMI ou d'autres. Est-ce que, par exemple, vous envisagez de créer des représentations permanentes, des délégations de votre service dans ce type d'instance ? Et quelle est la politique en la matière ?
On est déjà présent actuellement dans 9 organisations multilatérales, ou disons 9 centres multilatéraux, à travers donc des délégations de l'Union européenne. On est, comme vous le savez sans doute, en réalité, l'Union européenne est le premier contributeur multilatéral. Une des choses qui m'a le plus surpris depuis que je suis arrivé dans ces fonctions, c'est de voir tous les jours débarquer dans mon bureau des agences diverses des Nations Unies, dont je me demandais au départ, mais pourquoi est-ce qu'ils viennent me voir ? Et j'ai compris, on est le principal contributeur en règle générale, que ce soit le PNUD, l'UNRWA et d'autres encore, l'IOM, etc. On est un partenaire d'autant plus intéressant et amical qu'on assure souvent leur fin de mois à tous et aussi qu'on les aide pour toute une série de programmes. On a une relation assez forte. La difficulté qui se pose, bien évidemment, c'est que c'est sans doute dans le domaine multilatéral que l'action de l'Union européenne est, je dirais, la moins facilement acceptée par un certain nombre d'États membres. Et c'est là où, du coup, le combat est permanent actuellement. pour dire les choses simplement, un État membre qui n'a jamais été connu pour son grand enthousiasme européen, vous le reconnaîtrez sans peine, actuellement fait une espèce de barrage systématique pour empêcher qu'on s'exprime au nom des 27, souhaite dans un combat d'une bureaucratie tatillonne absolument exemplaire, souhaite qu'on parle au nom de l'Union européenne et des États membres. Donc les autres États disent non, maintenant Lisbonne est passée par là, il faut parler au nom de l'Union européenne seule. Et on est dans des combats absolument impossibles qui ont pour résultat immédiat qu'on n'arrive plus à s'exprimer au nom des 27. Donc on est en train d'essayer de régler ce problème. Mais alors que les relations entre les États membres et les délégations de l'Union européenne dans les pays tiers, c'est plutôt bien passé à la surprise générale, assez facilement, sans trop d'à-coups. Ça dépend des pays, il y a encore des progrès à faire, mais ça s'est plutôt, à la surprise générale, bien passé. Dans les organisations multilatérales, New York, Genève, Vienne, Rome ou ailleurs, c'est beaucoup plus difficile. Mais on est présent et on essaye lentement de se faire accepter et de jouer un rôle utile, surtout. C'est ça qui est important.
J'avais une question. Pour exprimer une position, votre service doit-il avoir un accord formel des 27 pays, ou est-ce que vous avez une certaine souplesse, une capacité d'appréciation en fonction de s'il y a évidemment une majorité assez forte, ou est-ce que c'est vraiment une obligation d'avoir l'accord formel des 27 pays?
Non,
et sous quelle forme
Vous avez trois cas d'école. Vous avez la déclaration que Mme Ashton fait en son nom propre et qu'elle peut faire sans demander l'avis des États membres. Et elle s'exprime au moins, plusieurs fois par jour à la lumière des événements. Et comme il y en a beaucoup actuellement, donc très souvent, elle fait des déclarations comme le porte-parole du Quai d'Orsay fait tous les jours des déclarations au nom de M. Juppé ou du gouvernement français ou des autorités françaises. Elle peut faire aussi des déclarations au nom des 27, mais à ce moment-là, il faut, à travers notre système dit coreux, avoir fait circuler un texte pour que tout le monde soit d'accord. Et puis, troisièmement, il y a des déclarations qui sont adoptées à l'occasion des réunions du Conseil, notamment des conseils des ministres des Affaires étrangères ou bien évidemment du Conseil européen, qui eux aussi ont fait l'accord, l'objet d'un accord à 27. Donc, vous avez, je dirais, les trois cas de figure. Oui.
Vous avez indiqué que parmi les effectifs actuels du service, il y avait 19% de personnes originaires des États membres, enfin diplomates dans les États membres, pour un objectif du tiers. Est-ce qu'il faut voir dans cet écart un scepticisme des diplomates des États membres vis-à-vis du service, ou est-ce lié à la montée en puissance du service? Et question annexe, y a-t-il des États qui fournissent plus de diplomates que d'autres?
Sur votre première question, c'est vraiment la montée en puissance. C'est même, je dirais, ce qu'il y a de plus satisfaisant actuellement dans le service d'action extérieure qui a été très critiqué. Vous savez, on a donc une formule de publication des postes et les gens présentent leur candidature. On est en moyenne entre 60 et 80 candidatures par poste, parfois plus, parfois un peu moins, mais rarement moins. Ça veut dire que vraiment les diplomates votent, je dirais, avec leurs pieds pour le service d'action extérieure. Alors soyons peut-être objectifs. Pour un certain nombre d'entre eux, c'est qu'ils n'ont peut-être pas de poste actuellement chez eux et qu'on devient un débouché. Je vous signale aussi qu'on est en train de devenir un débouché pour tous les ministres en déshérence qui viennent de tomber, de perdre leur poste. C'est ahurissant. Ils appellent tous en disant « aidez-moi, trouvez-moi un poste ». On va devenir le cimetière des ministres démissionnés. Mais donc, il y a ça. Mais deuxièmement, ce que je trouve très intéressant, donc, si vous voulez, on est à 19% parce qu'on était à 2-3% en début d'année. On a eu déjà une rotation l'année dernière, mais elle était avant que le service ne soit encore vraiment en place. C'était pas encore de plein. Je dirais, on n'était pas encore en régime de vitesse, de croisière normale. La première vraie rotation a eu lieu tout au long du premier semestre et on est arrivé pratiquement tout de suite à 19%. administration centrale et délégations comprises. Ce que je trouve très intéressant, parce que moi je pensais que les diplomates des États membres étaient plus intéressés par les délégations et que c'était là qu'il y avait le plus grand nombre de candidats, et les chiffres montrent que pas du tout. Il y a autant de candidatures pour venir travailler dans des postes, pas simplement de directeur ou de directeur général, mais de sous-directeur, de chef d'unité, comme on l'appelle ça chez nous, voire même pour être travaillé dans le desk. Et donc, c'est vraiment toujours très fort, et la pression et la demande est toujours intéressée. Y a-t-il des nationalités plus représentées que d'autres ? Oui. Et contrairement à ce que vous lirez partout dans la presse, la France est très très bien placée. Il vaut mieux pas donner les chiffres parce qu'on se ferait massacrer. Mais il y a 2-3 nationalités qui émergent très nettement devant les autres, et la France fait partie de cela. Le problème est plutôt justement d'arriver à essayer d'avoir à peu près une bonne représentation de tout le monde, en tenant compte du poids des uns et des autres, et aussi d'un élément qui est très important et qui est évident mais auquel on ne songe pas toujours, qui tient à l'expertise. L'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France ont des experts dans l'ensemble des domaines de la politique étrangère et dans l'ensemble des régions. On a des experts dans le domaine de l'Asie, de l'Afrique, des pays arabes. Quand vous êtes un diplomate letton, en général, vous n'avez eu d'expertise essentiellement tournée vers votre région, le voisinage, donc je dirais l'Europe orientale et centrale. Dans beaucoup de cas, ce sont des pays qui sont entrés dans l'Union européenne, donc on n'a plus de délégation. Donc ça limite un peu les compétences. Mais tout ça va évoluer et on arrive quand même à les utiliser, en particulier, par exemple, dans des régions comme les Balkans ou l'Asie centrale ou le Caucase du Sud, parce que là, ils peuvent nous être très utiles. Derrière tout ça, il y a vraiment la nécessité de créer un sentiment d'appropriation du service européen d'action extérieure. C'est-à-dire que les États membres se sentent à l'aise et le sentiment que c'est vraiment leur maison, leur ministère, en quelque sorte, leur service diplomatique. Donc, il faut être très attentif à ça. Et on essaye de rétablir un peu l'équilibre à mesure qu'on avance. Pour cela, il faudra sans doute pas mal d'années.
La dernière question.
Oui, vous avez évoqué les relations entre les délégations et les ambassades des États membres pour dire que finalement ça se passait plutôt mieux que ce qui était escompté. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a une perspective stratégique de votre côté sur l'évolution du rôle des délégations par rapport aux ambassades ?
Donc je dirais le rôle qu'on essaye de leur faire jouer, c'est le rôle, je dirais, naturel et qui, encore une fois, s'est mis en place sans grande difficulté, qui est avant tout un rôle de coordination en réalité. Et en tant que de besoin, et de plus en plus, de la part notamment d'un certain nombre d'États membres qui soit n'ont pas d'ambassade, tout simplement, soit en ont, mais pas forcément très bien équipés ou manquant de ressources, ils sont assez heureux d'avoir une délégation qui, si elle est mieux dotée que leur propre ambassade, peut leur assurer le suivi. Je vous donne des exemples. Comment faire en sorte qu'on puisse aider les uns les autres et trouver des économies. Les revues de presse, quand vous êtes dans un pays, je ne sais pas moi, le Japon par exemple, notre chef de délégation au Japon a proposé que la revue de presse de la délégation, la revue de la presse japonaise, puisse servir à tout le monde. Et que donc, du coup, les ambassades qui ont envie de chercher des économies suppriment leur revue de presse, qui coûte souvent un peu cher. Il faut trouver des traducteurs, il faut faire tourner la photocopieuse. On a ce système-là. C'est un détail, mais vous pouvez en multiplier ça de plus en plus. Un autre exemple que je trouve très encourageant et très intéressant, c'est que de plus en plus, les ministres des Affaires étrangères de tel ou tel État membre qui se déplacent dans un pays donné où ils n'ont pas d'ambassade demandent au service d'action extérieure de leur fournir un dossier. Dossier complet sur l'analyse de la situation économique, politique, etc., l'action de l'Union européenne, tout ça. Donc il y a des habitudes de travail qui se prennent comme ça, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure en disant que on aurait imaginé il y a quelques années On aurait dit ça, tout le monde m'aurait dit, t'es fou, ça ne peut pas se faire. Et là, ça se fait de manière assez naturelle. Puisque c'est la dernière question, si je devais terminer sur une considération générale, ce serait celle-là, la considération générale. Je crois qu'on ne s'est peut-être pas assez rendu compte qu'en matière de politique étrangère, on met toujours en avant les divergences, les clivages, les divisions spectaculaires, l'Allemagne qui ne vote pas la résolution 973 à New York, alors que la France, la Grande-Bretagne et le Portugal l'ont voté. Et tout ça est vrai. Ce qu'on ne voit pas, c'est que le lent travail et le patient travail qui s'effectue à Bruxelles tous les jours dans les groupes de travail et qui fait qu'on est passé de ce qu'on appelait la coopération politique en 1972, où vous aviez un petit secrétariat avec quatre malheureux diplomates détachés qui rasaient les murs parce qu'on les considérait comme des traîtres à peu près dans tout le reste du bâtiment du Conseil, est devenu donc 40 ans plus tard un service d'action extérieure qui a pignon sur rue, qui a créé des habitudes et qui porte en lui probablement plus de potentiel d'unité qu'on l'imagine. Mon sentiment, et quand j'en parle à ceux qui connaissent bien l'Union de l'intérieur, ont tendance à partager mon sentiment, c'est qu'il y a peut-être plus de possibles actions communes et d'unité européenne à venir en matière de politique étrangère que dans beaucoup de domaines économiques qui sont un peu sur le devant de la scène. Il y a des divisions très profondes. On l'a encore vu à l'UNESCO où on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Mais par exemple, l'UNESCO, c'est très intéressant. À deux heures du vote, il y avait 26 États membres qui étaient prêts à voter sur une même ligne qui était, vous savez, il s'agissait de la reconnaissance de la Palestine. Et tout le monde a dit, c'est terrible, l'Europe s'est divisée en trois. À 5 minutes du vote, on était 26 et on l'espérait 27 États membres à voter dans le même sens. Il y en a un, je ne citerai pas, qui au dernier moment a dit non, je préfère voter dans un sens. Et à ce moment-là, chacun a dit, bon, ben, je reprends ma liberté. Mais c'est vous dire qu'on n'est pas loin, en réalité, d'avoir beaucoup plus de doctrines communes et de troncs communs en matière d'action extérieure qu'on ne le pense généralement. Donc, il ne faut pas désespérer.
Bien, monsieur Schröder, je crois que vous avez une obligation dans peu de temps, et donc il y aura encore beaucoup d'autres questions. Je voudrais, au nom de tous, vous remercier très, très chaleureusement pour vous être prêté à cet exercice et à répondre avec autant de brio à toutes ces questions. Je crois que nous avons beaucoup appris les uns les autres. Merci vivement de votre participation à cette rencontre. Merci. Je vous indique d'ailleurs que les actes de cette rencontre seront sur notre site à la mi-décembre, le site cgedd.gouv.fr. Merci à tous. Thank you.